Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal du midi, François-Xavier de Calonne. Le début hier de la 37e campagne des Restos du Cœur, l'association alerte sur l'aggravation de la précarité des plus démunis pendant la crise sanitaire. Nous écouterons le président des Restos du Cœur de l'Oise, Bruno Cauchy. L'émissaire de l'ONU pour la Libye démissionne de ses fonctions, une décision surprise un mois avant une élection présidentielle cruciale dans ce pays. Le Premier ministre soudanais ordonne l'arrêt immédiat des limogeages. Abdallah Hamdok annonce le réexamen de toutes les nominations annoncées pendant sa détention dans la foulée du coup d'État du 25 octobre. La sortie ce mercredi de Liban 1982, un film de Walid Mouanès, un long métrage qui retrace une journée d'école à Beyrouth au moment où l'armée israélienne envahit le Liban. Un film présenté en France en partenariat avec Radio Orient. Le réalisateur Walid Mouanès sera l'un de nos invités. L'invité de Pluriel hier soir était Nadège Azaz, porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo avant la journée mondiale contre les violences faites aux femmes demain. Elle fait des propositions pour lutter contre ce fléau, extrait dans votre journal. Elle a démarré hier le début de la 37e campagne des Restos du Cœur. En 2020-2021, 1 200 000 personnes ont pu être accueillies, dont les trois quarts pendant l'hiver. Parmi les bénéficiaires, 15% ont déclaré être venus pour la première fois à cause de la crise sanitaire. Entretien avec le président des Restos du Cœur de l'Oise, Bruno Cauchy.
Sur l'année qui vient de s'écouler, on a par exemple sur l'aide alimentaire distribué 1 350 000 repas dans le département de l'Oise, ce qui est en augmentation de 7%. On constate effectivement de nouvelles familles qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. C'était, on va dire, des personnes qui vivaient pas richement, mais qui se débrouillaient pas avec des petits boulots, des CDD, des intérims, ou des fois des emplois non déclarés. Avec la pandémie, eh bien, nombre de ces personnes se sont retrouvées complètement démunies et ont poussé la porte des restos.
Cela reflète ce qui se déroule sur le territoire national en France, où 15% des bénéficiaires ont déclaré être venus pour la première fois au Resto du Cœur à cause de la crise sanitaire.
Oui, ils ont été impactés. Quand je regarde l'augmentation des personnes, c'est vrai que ce 15%, je le retrouve sur certaines pointes en été. Donc c'est globalement la même image qu'au national, de la même façon que on voit... Sur le profil des familles, on voit bien sûr, comme d'habitude, que alors, famille, même une personne seule, à elle seule, elle fait un foyer. On voit qu'il y a presque 40% de personnes seules qui ont du mal à s'en sortir. Mais ce qu'on voit progresser aussi, ce sont les familles monoparentales. Alors, les familles monoparentales, c'est souvent la maman avec les enfants. C'est plus de 32% de familles monoparentales qui viennent, et ça, c'est un chiffre qui monte. Dans ces familles, il y a des enfants. Quand on regarde le nombre de mineurs sur l'Oise, il y a 42% des personnes. On accueille à peu près, on aide 10 000 personnes à peu près dans l'Oise, dans l'année. Sur 4 000 familles, il y en a 42% qui ont moins de 18 ans. Et ils ne sont pas des mineurs isolés, ce sont les enfants des familles. Et voilà.
Quelles sont les conditions aujourd'hui pour bénéficier de l'aide alimentaire apportée par les Restos du Cœur?
Alors, en ce qui concerne l'aide alimentaire, à proprement parler, on regarde le reste à vivre des familles, donc selon la composition de la famille, selon ses revenus, selon ses charges de loyer, d'électricité, de chauffage, etc. On a des barèmes, on regarde avec les familles, bon, par exemple, toutes les familles qui sont uniquement avec le RSA, bien sûr, rentrent dans nos barèmes. Mais c'est vraiment cas par cas, il faut regarder dans la famille, il faut regarder l'âge des enfants, etc. Il y a toute une méthodologie pour voir, pour calculer ce qu'on peut faire.
C'est-à-dire qu'il y a une inscription en amont? Comment cela se passe concrètement?
Alors, oui, tout à fait. Oui. En ce qui concerne l'aide alimentaire, il y a une inscription. Parce qu'on a des ressources qui sont importantes grâce à la générosité du public, mais d'abord il faut les gérer et il faut essayer de donner aux plus démunis. Donc un des membres de la famille se présente dans le centre, elle vient avec les documents administratifs tels qu'un relevé de la CAF par exemple, ou s'il y a du travail à temps partiel avec sa feuille de salaire, Ça vient avec son loyer, ou si elle est propriétaire, avec sa taxe d'habitation, avec ses factures de chauffage, d'eau, d'électricité. Et on regarde ensemble dans quelle mesure on peut accorder une aide alimentaire. Et si on n'accorde pas l'aide alimentaire, dans quelle mesure on peut aider la famille sur d'autres aspects qui peuvent être un accès à la santé, qui peuvent être une aide de soutien à la recherche d'emploi, ou l'accès aux vestiaires, des choses de ce genre-là.
La campagne a démarré ce mardi, il reste bien entendu possible de s'inscrire.
Du premier au dernier jour, on peut s'inscrire. Il n'y a pas de limite de temps. Les familles qui ont besoin d'un coup de pouce, elles peuvent venir nous voir. Il faut consulter sur Internet les jours et heures d'ouverture du centre Resto du Cœur le plus proche de leur domicile. Et les bénévoles accueilleront ces familles avec bienveillance et sans aucun jugement de notre part, et de façon tout à fait inconditionnelle aussi. Et on examinera ensemble ce que l'on peut faire pour les aider.
Vous présidez les Restaurants du Cœur de l'Oise. Vous avez suffisamment de bénévoles aujourd'hui ou alors vous lancez un appel?
La plupart des bénévoles que nous avons et dont je fais partie sont des retraités. Tous les ans, on a un certain nombre de bénévoles qui partent parce que ils atteignent un âge où on a envie de rester chez soi, se reposer un peu. La pandémie, pareil, a fait que pas mal de personnes se sont mis en retrait pour protéger leur santé et on a effectivement besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles sur Beauvais, par exemple sur notre entrepôt. On a besoin de chauffeurs-livreurs, de préparateurs de commandes, de gens pour accueillir les familles qui ont besoin de nous. Et besoin de bénévoles aussi, ça fait plus ressentir sur le nord de l'Oise, curieusement. Alors, c'est un peu plus rural et on a plus de mal à trouver. Je vois sur Grandvilliers, on cherche des bénévoles. Sur le Coudray aussi, par exemple, hein, je cite comme ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quelqu'un qui est bénéficiaire hein, au Restaurant du Cœur peut bien sûr aussi être bénévole. C'est aussi une façon de contribuer et de rendre un petit peu aux autres ce qu'ils ont reçu. Bon, après, bien sûr, il n'y a pas d'avantage particulier à être bénévole chez nous. Hein. Bénévole, ça, c'est dans le sens noble du terme, sans aucun avantage particulier pour chaque personne.
Le président des Restos du Cœur de l'Oise, Bruno Cauchy. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, le Slovaque Jan Kubis, a démissionné de ses fonctions, une démission moins d'un an après sa prise de fonction en janvier. Une démission à un mois de la présidentielle prévue en Libye. Aucune raison officielle n'a été donnée. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est récemment divisé sur l'opportunité de reconfigurer la direction de la mission politique onusienne en Libye. Plusieurs membres du Conseil souhaitent que le poste d'émissaire soit redéployé de Genève à Tripoli. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ordonne l'arrêt immédiat des limogeages. Le chef du gouvernement qui a repris son poste dimanche a annoncé le réexamen de toutes les nominations annoncées durant sa détention dans la foulée du putsch militaire du 25 octobre. Ce jour-là, le général Abdel Fattah al-Burhan dissolvait l'ensemble des institutions du pays. La sortie ce mercredi de Liban 1982, un film de Walid Mouannes, un long métrage qui retrace une journée d'école à Beyrouth au moment où l'armée israélienne envahit le Liban. Un film présenté en France en partenariat avec Radio Orient, le réalisateur Walid Mouannes.
Pour moi, c'était très important de dire une histoire de cette année-là, parce que 1982, c'est en juin, j'avais 10 ans. C'était un an qui change complètement le Liban, parce que c'était le jour que l'invasion israélienne est arrivée à Beyrouth. Et c'était la première fois qu'il y avait une ville arabe qui était occupé par une armée comme ça dans le XXe siècle. Et aussi, pour moi, c'était très important de dire notre histoire, histoire humaine, parce que tout le temps, il y a des histoires de guerre au Liban et comme ça, mais c'est la plupart des histoires de guerre, c'est complètement par les gens qui est fighters dans les guerres. Et en ce moment, c'est la guerre qui est imposée à un peuple.
Et effectivement, dans votre film, on ne voit pas les combattants à proprement parler, on voit des civils. Il y a deux groupes de personnages, les enfants qui vont à l'école et les adultes, des enseignants qui doivent faire face à l'arrivée de ces chars israéliens alors que les élèves sont en classe. Le pari du film, c'est de montrer comment les enfants ont vécu ces moments.
En fait, le film vient de ma mémoire de ce jour-là. C'était mon premier jour que j'ai vécu un vrai guerre, que j'ai vu de violence comme ça. Mais c'était une violence trop loin de nous. Mais c'était une violence qui est dans le ciel et dans la ville. Pour moi, c'était pour expliquer notre émotion de ce jour. J'ai décidé de faire ce film du point de vue d'un regard d'enfance parce que moi, j'étais 10 ans. Mais il y avait des adultes autour de moi quand j'étais 10 ans qui étaient très... qu'ils sont quelque chose de complètement différent. Pour moi, le monde d'enfance, c'était complet pour moi parce que je suis tombé amoureux et il y a des examens, des tout, tu sais. Et il y a deux mondes, un monde d'enfance qui est pur et un monde des adultes qui est complètement contaminé par toutes les différences, toutes les divisions sociales et politiques au Liban. Et pour moi, c'était très important de présenter les deux contrastes. Mais au fond, pour moi, c'est l'histoire d'innocence qui change dans un jour. Les enfants est à grandir dans un jour parce que c'est le premier jour qu'ils comprennent le monde, qu'ils voient l'atrocité du monde des adultes. Pour Wissam, le protagoniste de cette histoire, en fait, il rêve, il va sauver la ville, il va sauver l'amour aussi.
La poésie est très présente dans votre film.
Je pense que moi, en fait, quand je réfléchis au Liban, à propos de ce qui est libanais, de ma vie d'enfance au Liban, mon mémoire, c'est très, très, très beau, tu sais, et je sens et je raconte les détails de vie, les détails de la nature, de le ciel bleu, de tout. Et pour moi, ça dire quelque chose très important. Et au milieu littéraire, en fait, de ce film.
Le réalisateur de Liban 1982, Walid Mouanès, il répondait à Loïc Barrière. Face à la flambée des cas de Covid-19 en France, le gouvernement se réunit ce mercredi pour un nouveau conseil de défense sanitaire, une réunion pour définir les mesures à prendre pour contrer cette très forte hausse des contaminations. 30 454 positifs ont été recensés hier. L'invité de Pluriel hier soir était Nadège Hazard, maire socialiste de Châtillon, conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Avant la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, demain, elle fait des propositions pour lutter contre ce fléau. Nadège Hazard.
Je crois que la problématique de lutte contre les violences faites aux femmes, là encore, est un combat républicain. Il faut que, au-delà d'une simple grande cause nationale, il faut qu'on en fasse vraiment une préoccupation sociétale de tous les instants. Il faut, comme ce qui s'est passé en Espagne, un véritable sursaut républicain, sursaut populaire sur ces questions-là. Il faut investir massivement. Les associations parlent du milliard contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'un milliard dans le vaste budget de l'État si cela permet de sauver des vies, et non seulement des vies de femmes, mais aussi, quand on connaît un peu le détail des violences intrafamiliales, des vies d'enfants, parce qu'ils sont également évidemment victime de ces violences. Il faut pouvoir mettre en œuvre en urgence l'accueil de ces femmes lorsqu'elles sont victimes de violences, l'accompagnement de ces femmes lorsqu'elles sont victimes de violences. Il faut évidemment qu'il puisse y avoir un suivi de peine qui soit extrêmement strict. Vous l'avez dit, nos policiers sont aujourd'hui formés dans une grande majorité. Les collectivités ont aussi un rôle à jouer au niveau notamment, vous savez, de tous les accueils du public, au niveau de nos policiers municipaux. Il faut qu'il puisse y avoir à un moment donné des détections qui soient faites très en amont pour que nous n'arrivions pas à un stade où des meurtres pourraient être commis. Encore une fois, il y a des évolutions parce que, oui, le bracelet anti-rapprochement, oui, le fait aujourd'hui qu'on parle de ces violences, les mouvements, notamment MeToo, ont permis aussi une libération de la parole. Lorsque le mot féminicide rentre dans l'expression populaire, oui, il y a aussi une prise de conscience. Sauf que ce chiffre, il continue de s'égrener. Tous les un jour et demi, une femme continue de mourir dans notre pays, sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon.
Nadège Azaz, maire socialiste de Châtillon, conseillère régionale d'Île-de-France, porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez réécouter sur radioorient.com. L'invitée de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera Geoffroy Didier, député européen Les Républicains, soutien de Valérie Pécresse pour l'investiture de la droite à la présidentielle. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal en langue française. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h16.